Cette semaine, cinquième semaine du temps de carême, nous vous proposons le compagnonnage de Saint Vincent de Paul. Bonjour Abbé Benjamin Martin.
Bonjour Anne-Rose, bonjour chers auditeurs.
Alors cette fois-ci, nous faisons un véritable bond dans le temps, puisque la semaine passée encore, nous étions dans les premiers siècles de la vie de l'Église avec Saint Savin au 5e siècle. Cette fois-ci, nous sommes déjà à la fin du 16e siècle. Alors c'est une époque où l'Église catholique connaît ou s'apprête à connaître des tumultes, beaucoup de tourmentes, des divisions aussi. C'est pas la période la plus facile pour l'Église catholique.
Ce n'est pas la période la plus facile, effectivement, une époque de division de la foi, avec un schisme ou des schismes qui vont être ceux du protestantisme. Ce qui veut dire que là, dans un royaume unifié, parce qu'il y a un roi, parce qu'il y a une terre et parce qu'il y a une religion, eh bien là, il va y avoir une division théologique entre les protestants et les catholiques. Il va y avoir aussi, du coup, des cités qui vont devenir protestantes, qui vont aussi s'armer, ce qui veut dire qu'il y a un problème à la fois d'ordre ecclésial, de l'unité de la foi, mais également aussi le pouvoir temporel entre véritablement dans la bataille. Qui est complètement imbriqué, bien qu'il y ait une distinction des pouvoirs, hein, entre le pouvoir spirituel et le pouvoir ensuite naturel, temporel des choses, mais... Bien sûr, le roi est catholique et il y a ce rapport véritablement à l'Église, au sacrement.
Si le roi est catholique, le peuple est catholique. Si le roi n'est plus catholique, le peuple n'est plus catholique.
Alors voilà, c'était un des adages de ce temps-là. La religion du prince, c'est aussi la religion du peuple. Alors Saint Vincent de Paul naît dans ce contexte déjà de division, dans un contexte où la foi... à la fois fait l'unanimité, mais pas dans le détail des choses, ni dans l'expression de cette foi. La vie sacramentelle, la place de la Bienheureuse Vierge Marie, ce ne sont pas de petits détails dans la vie chrétienne, nous le savons. Ben Saint Vincent de Paul naît dans une famille, alors une famille de petite aristocratie, une famille d'agriculteurs landais, en avril 1581. On est très près de Dax, nous sommes donc dans les Landes. Et si nous en parlons dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, c'est en raison d'un lien, d'une amitié, qui doit être due d'ailleurs à sa famille, entre le jeune Vincent de Paul et l'évêque de Tarbes, Salvat d'Illars. Vincent de Paul a une vocation enfant, une vocation pour devenir prêtre. Il est doué dans les études et donc du coup on l'encourage. Cependant, il est intéressant de constater que donc Dieu l'appelle, Vincent répond. Mais il répond aussi petit à petit, puisque nous sommes dans le temps du carême, la conversion n'est pas toujours immédiate et absolue. Il va y avoir comme des petites conversions, des conversions intérieures petit à petit. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Église est organisée d'une telle façon, d'où aussi une des réactions protestantes, que la chrétienté est maintenant bien établie. Il y a un certain nombre de monastères qui possèdent des terres. Il y a donc une richesse immanente à cette pauvreté de vie, c'est le paradoxe. Et on peut aussi entrer dans l'Église pour avoir un statut social. Je ne dis pas que Saint Vincent de Paul n'avait pas la vocation sacerdotale, ça va devenir un grand héros de charité.
Mais sa vocation n'était pas étonnante ou surprenante dans le milieu dans lequel
ce n'est pas étonnant, voilà. Il fait partie de l'aristocratie, que l'aristocratie donne un fils à l'Église, c'était presque une coutume. Mais il y a donc, je précise ça parce que il veut devenir prêtre, il n'est pas né saint, voyez-vous, immédiatement. C'est intéressant, il ne descend pas comme ça du ciel. Ça se fait aussi de cette conversion progressive que nous vivons de façon condensée et symbolique dans le temps du carême, mais en fait, qui occupe toute notre vie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est immergée dans une famille catholique, elle a profondément la foi, elle parlera pourtant d'une conversion lors de la nuit de Noël. Alors qu'elle avait déjà la foi. Et donc c'est cela dont il s'agit de constater. On trouve ça aussi dans la vie de Charles Borromée. Charles Borromée, son oncle devient pape. Et bien voilà que sans lui poser la question de vocation, on le nomme secrétaire d'État, cardinal, et que ce sera un cardinal qui sera ensuite ordonné prêtre. On voit aujourd'hui l'étonnement des choses, et pourtant Charles Borromée se révélera être un très très grand pasteur, évêque de Milan. Et donc chez saint Vincent de Paul, on retrouve un peu la même chose, c'est-à-dire ce désir de se donner au Christ, mais aussi se donner au Christ dans l'état du monde dans lequel il vit, avec cette idée aussi d'évoluer socialement.
Ça veut dire que dans son parcours, enfin, on peut parler de conversion, non, comme vous dites, mais ça veut dire qu'il y a eu des combats aussi, qu'il y a eu des étapes, il a dû vraiment marquer ce parcours de foi, peut-être choisir ou rechoisir de dire oui à l'appel du Christ.
Oui, comme chacun d'entre nous. Nous avons chaque jour à redire fiat, oui, serviam, je servirai, je serai du côté du Christ. C'est toujours des choses à réengager.
Alors pour saint Vincent de Paul, c'est passé par quoi ?
Saint Vincent de Paul, bien, c'est passé, je pense, par sa vie de prière et par le contact de deux réalités. Le contact de la bonne société, pourrions-nous dire, d'une société aristocratique, d'une forme de vie mondaine, mais une vie mondaine, oui, mais qui avait aussi une vie chrétienne qui était prévue dans cette mondanité. Nous sommes encore en chrétienté. Et de l'autre côté aussi, l'expérience de la plus grande des pauvretés. Et donc du coup, comme dans toute vie chrétienne, il y a cet ajustement entre l'idéal que nous nous présentons du ministère sacerdotal ou qu'on nous présente dans l'état de vie de son temps, et puis la réalité aussi de voir ces pauvres qui sont parfois ignorants du Christ ou alors qui ont besoin de grands secours. Et c'est là que saint Vincent de Paul va exceller. Il y a à la fois donc ce désir de se donner au Christ et de le transmettre, et puis au contact aumônier de la reine Margot, aumônier ensuite de la famille Gondi, et rencontrant tout un tas de personnes, il va savoir avoir l'entregent nécessaire pour à la fois leur parler du Christ, mais nous sommes en période de chrétienté, ils sont chrétiens. Et il était de coutume de donner des œuvres pour faire des œuvres de charité, mais là saint Vincent de Paul va se révéler être à la fois un fondateur et un grand organisateur.
Ces deux engagements, enfin d'avoir le fait d'avoir un pied dans cette sorte de vie mondaine et puis l'autre pied vraiment un engagement au service des pauvres, c'est ce duo-là qui a façonné son âme, qui lui a permis d'être le saint qu'il est devenu.
Oui, je pense que le bon Dieu fait avec ce que nous sommes.
Parce qu'il s'est donné tout entier partout dans les deux engagements.
Oui, vraiment. Vraiment, c'est un homme entièrement donné ensuite au Seigneur et qui va, au fil des circonstances de sa vie, trouver les bonnes personnes pour financer un grand nombre d'œuvres et un grand nombre de besoins.
On peut peut-être en citer quelques-unes parce qu'en fait, c'était aussi un acharné du travail. Il a fondé sans cesse des œuvres au service des plus pauvres. Il n'en manquait pas, des pauvres.
D'abord, deux congrégations. Les dames de charité qui sont là pour venir en aide aux plus pauvres. On retrouvera Sainte Catherine Labourée, rue du Bac et les apparitions de la Vierge Marie, et notamment une apparition de saint Vincent de Paul à Sainte Catherine Labourée. Donc ça, c'est déjà la congrégation féminine un peu par excellence. Et puis, il va y avoir cette congrégation en 1625 fondée, la congrégation des prêtres de la Mission, comme ils sont dans la rue Lazare à Paris. On les appelle plus communément les Lazaristes. Mm-hmm. C'est d'ailleurs en cette chapelle que le corps de saint Vincent repose et peut être vénéré. Donc ça, c'est les deux grandes fondations d'ordre de sa vie. Et ensuite, il va y avoir, par exemple, en 1638, c'est l'année de naissance de Louis XIV, l'œuvre des enfants trouvés. On trouve des enfants, il faut bien avoir une institution qui s'en occupe. Et bien voilà que cela est fondé par saint Vincent de Paul. En 1651, c'est des collectes, parce qu'il y a la guerre, et on se rend compte que les victimes de guerre ont de grands problèmes, de pauvreté. Et bien voilà qu'on va organiser sous la houlette de Vincent de Paul ses collectes, l'Union chrétienne destinée à l'éducation des enfants en 1652, l'hospice du Saint-Nom de Jésus à Paris en 1653 par exemple. C'est un apôtre infatigable de la charité qui véritablement à la fois se donne au Christ, se donne aux plus pauvres, mais sait aussi aller chercher les bonnes âmes pour que cette vie de charité s'incarne dans son temps. Et en ce temps du carême où nous devons faire l'aumône, c'est-à-dire où nous devons donner à la suite du Christ, qui est vraiment l'offrande que nous avons reçue sur le bois de la croix, saint Vincent de Paul est un modèle admirable. Il faut nous aider aussi à nous dépouiller du vieil homme, nous dit saint Paul, pour revêtir l'homme nouveau. Nous avançons vers le chemin de Pâques. Que saint Vincent de Paul nous aide à savoir aussi donner de notre temps, de notre engagement, peut-être associatif, mais aussi de nos deniers, pour véritablement financer ces œuvres utiles pour le salut du monde.
Abbé Benjamin Martin, vous nous avez expliqué au début de cet entretien le lien avec le diocèse de Tarbes et Lourdes. Peut-être qu'on peut dire aussi l'importance, l'autre élément important dans la vie de Saint Vincent de Paul, c'est son ordination diaconale en la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes. C'est aussi une des raisons qui fait que, eh bien, dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, la figure de Saint Vincent de Paul est une figure très, très présente.
Tout à fait, figure présente, avec cette amitié avec Salvate d'Iars, dont le frère était dans la ville de Bidache, et c'était non loin de là qu'il put rencontrer la famille de Vincent de Paul. Il va être ordonné sous-diacre tout d'abord le 19 septembre 1598 par cet évêque, et ensuite, quelques mois après, le 19 décembre, toujours de la même année, 1598, il va être ordonné diacre. Mais voilà que le bon Dieu rappelle à lui Salvate d'Iars, nous sommes à l'époque du népotisme, et cet évêque passe du coup le siège de Tarbes à son neveu, qui va devenir évêque à sa suite, et donc Vincent de Paul, n'ayant plus cette amitié particulière, sera ordonné en dehors de notre diocèse. Il y avait donc du coup une amitié spirituelle entre ces deux hommes, et donc ce lien en notre cathédrale.
En tous les cas, l'héritage spirituel de Saint Vincent de Paul est bien présent dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, et merci de nous avoir rappelé cette histoire. Merci à Abbé Benjamin Martin. On se retrouve la semaine prochaine pour la sixième semaine de carême. Nous serons en compagnie, cette fois-ci, de Sainte Bernadette. Merci, à la semaine prochaine.
Merci Anne-Rose.